7h16 minutes. Bonjour Pierre-Yves.
Bonjour Paul.
Alors, Uber est entré en bourse et après 3 mois, les pertes sont de 1 milliard.
1 milliard de dollars américains, c'est 1000 millions de dollars. C'est quand même beaucoup d'argent, mais ce qu'il faut voir maintenant, c'est qu'Uber a le défi de faire des profits à long terme. Et il y a plusieurs paris. Le premier pari, c'est le pari Amazon. On fait le pari Amazon, mettre la main sur un marché mondial. L'actionnaire doit être patient. Il doit penser à une décennie. Il doit penser à quand est un domaine réglementé et qu'on entre là-dedans et qu'il faut payer des chauffeurs. C'est pas la même réalité qu'Amazon. T'sais. Il faut être un peu plus patient. Et évidemment, comme j'en parle souvent à la chronique, c'est l'effet de réseau qui va faire gagner Uber. C'est le fait de mettre la main sur des marchés et que le nombre de courses devienne exponentiel et qu'un jour, l'utilisateur se dise « Tiens, je vais prendre un transport » et que ça devienne juste ça. Il y a aussi deuxième lien, c'est l'industrie de téléphonie cellulaire. Au début des années 2000, Paul, j'étais à l'université dans mon jeune temps. Et au millénaire, on nous montrait des états financiers de compagnies de cellulaires. Et là, c'était à perte. Puis là, on disait « Hey, ça n'a pas d'allure ». Et notre prof disait « Regardez l'indicateur important, c'est la croissance du nombre d'utilisateurs. » Faut créer un effet de réseau. Et Uber, c'est un peu pareil. Pour l'instant, ça a l'air un peu fou, mais quand tu y penses, si ta livraison à court terme devient Uber, ta livraison de nourriture devient Uber, puis ta livraison de toi-même devient Uber, le nombre de courses va amortir les coûts. Et là, c'est une course contre la montre. C'est pour ça qu'on brûle beaucoup de cash, on sort beaucoup de liquidités. On veut acheter le marché. Donc, ça se voit dans les états financiers. Le poste marketing augmente, le poste recherche et développement augmente. On fait des acquisitions. Et je te fais un parallèle avec le Québec. Tu as Eva ici au Québec.
Mm-hmm.
C'est une coopérative pour attirer les chauffeurs de taxi et autres qui veulent faire du covoiturage ou du partage ou du taxi. Et puis, j'ai vu l'autre jour dans la rue un chauffeur qui avait Eva et Uber en même temps sur sa voiture. Dans le fond, Eva n'a pas l'effet de réseau pour l'instant autant qu'Uber. C'est-à-dire que tu n'as pas la même capacité. Mais si un chauffeur a les deux et qu'avec Eva, il fait une plus grosse commission, il peut gagner de l'effet de réseau. Et ça, c'est un exemple de menace locale à Uber, comme dans d'autres villes, c'est des réglementations. Donc, Uber doit se battre contre tout ça d'un coup pour gagner.
Mais je te dirais que pour avoir souvent des courriels de chauffeurs Uber, là, ils ont tous l'impression qu'ils sont en train de se faire faire la peau pour permettre à Uber là, d'afficher des meilleurs résultats financiers.
Mais je te le confirme que Uber, si t'es chauffeur Uber puis t'en fais un plan de carrière, t'as pas compris les mathématiques financières, mais si t'es un chauffeur Uber qui se dit « Ce soir, au lieu de regarder la télé, je vais aller faire 2-3 courses », c'est pas pire. T'sais, c'est vraiment une vision très temporaire, mais t'as raison, Paul. Ils sont utilisés par la machine. Uber en haut se dit pas « Tiens, nos chauffeurs, on veut leur faire des régimes de retraite puis tout ça, c'est pas ça du tout. » là. On veut mettre un réseau qui est fort, mais l'action a perdu quand même 11% en moins d'un mois, ce qui est moins pire que Lyft. Mais on voit très bien dans les résultats qu'il y a tout un défi qui les attend.
Parlons de retraite, d'investissement et de dividendes.
Oui, parler de dividendes, Paul, parce que hier, il y a des articles qui demandent qu'ils se mettent ensemble. Puis hier, c'est un peu ça. Il y avait un article dans le journal Métro qui disait, écoutez, il y a un rapport de Brookfield Institute qui dit les gens de plus de 65 ans sont de plus en plus nombreux. C'est 23% des Canadiens d'ici 2031 qui ont 65 ans et plus. Et il y a plein d'autres statistiques, là, je te ferai pas l'éloge de tout ça. Mais en somme, on est plus vieux, on va travailler plus longtemps, puis il y en a qui n'ont pas de retraite. Et parallèlement à ça, tu as des petites nouvelles qui excitent personne. Tu sais, la Banque Laurentienne et la Banque Nationale augmentent leurs dividendes. La Banque Nationale a augmenté son dividende de 3 cents par trimestre et la Banque Laurentienne de 1 cent par trimestre. Ça passe en dessous du radar. Le journaliste copie-colle le communiqué de presse, puis il se dit « Voici une nouvelle économique pour remplir mon journal. » Mais le comptable, en arrière de ça, il dit « Aïe, aïe, c'est excitant. Je t'explique pourquoi. » Tu es à la Banque Nationale. Tu reçois maintenant ton dividende annuel de 68 cents par trimestre ou 2,72 par année. Donc, sur une action que tu achèterais aujourd'hui 60,86, tu fais 4,5% par année de dividendes sans tenir compte le gain de valeur de l'action. La Banque Laurentienne, l'autre bord de la rue, une scène. Là, tu te dis, oh mon Dieu, une scène. On va éliminer les scènes noires ici, de toute façon. Non, non, non! 2,64 $ par année sur une action de 42$. 6,2%. Allô, tout le monde! Année après année, vous allez recevoir à chaque trimestre des dividendes qui représentent de 4 à 6%, si vous avez acheté des actions récemment, de vos placements en plus du gain. Ça veut dire que si t'es à la retraite, justement, parlons de nos retraités, c'est le lien. puis que tu dis « Hey, moi, là, j'ai besoin de liquidité à retraite, mais j'aille ça payer de l'impôt. » T'imagines-tu que t'as mis des actions de banque à 58 ans dans ton CELI, mettons? Puis qu'à chaque trimestre, tu reçois des cents, des piastres, puis là, évidemment, les milliers d'actions font des milliers de piastres. Donc, tu reçois une rente à chaque trimestre dans ton CELI. Free tax dans tes poches, Paul, pour ta retraite. Non, mais c'est fou. Eh oui. Ça a l'air de rien. C'est pas excitant, mais ton action, en plus de garder l'action puis la valeur, te génère des liquidités. Et si t'as un petit peu de lousse, tu peux même les réinvestir en d'autres actions et ainsi amortir ton coût moyen. Tu vois-tu l'excitation derrière deux nouvelles plates? Comment ça peut devenir bon? Je suis comme un Ricardo, moi. Je te prends des ingrédients un peu plates, je te fais de quoi de cool, je mets ça en marketing, je te package ça, puis c'est le fun. Tu comprends? Et en sortant.
Oui.
Et en sortant, je vais te parler de punaise de lit. Parce que c'est le gros sujet. Il y a un propriétaire qui m'écrit un moment donné, tu sais qu'on est irresponsable, nous, les propriétaires, de faire exterminer les punaises de lit.
Oui.
Le problème, c'est quand les locataires, ils s'en occupent pas, ben, j'ai perdu mon bénéfice. Alors, moi, il y a une locataire demandé qui m'appelle, qui me dit, Monsieur McSwain, j'ai des punaises de lit. Hey, moi, panique, hein. Elle dit, c'est vous qui devez payer. Je sais. J'appelle l'exterminateur. L'exterminateur débarque. Sais-tu qu'est-ce qu'il y avait?
Non.
Elle avait une bouche à fruits, elle avait laissé des tomates sur le comptoir.
Pas tout à fait de punaise de lit, quoi.
Ça a coûté quand même 800 piastres.
Salut, bon week-end. Salut. 7h23.